Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia Devitt.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette rubrique portrait de l'émission Un jour dans l'histoire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un personnage qui a joué un rôle fondateur pour l'histoire de France et qui pourtant demeure peu connu. Il s'agit de François-Eudes de Mézeray. Né en 1610, il figure parmi les historiens les plus connus, car le plus lu de son époque. Autre aspect du personnage qui nous intéresse particulièrement ici, au micro de Canal Académie, est qu'il fut un des membres les plus influents de la jeune Académie française, dont il fut d'abord membre, puis secrétaire perpétuel. Son rôle est capital dans l'élaboration du dictionnaire de la langue française préparé par l'Académie. S'il doit sa renommée au pouvoir royal par l'intermédiaire du cardinal de Richelieu, qui le nomma historiographe de France, il doit aussi sa disgrâce, puis l'oubli dont il sera victime, à ce même pouvoir royal sous Colbert. Penchons-nous donc dans cette émission sur la personnalité et le parcours de François-Eudes de Mézeray, qui en fait soulève la question des rapports entre l'histoire et le pouvoir. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir M. Guy Véron, auteur d'une biographie de François-Eudes de Mézeray parue aux éditions HED. Monsieur Véron, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de Canal Académie. Permettez-moi de vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes conservateur en chef du patrimoine. Vous avez publié « Préhistoire de la Normandie », ainsi que de nombreuses études sur l'histoire et l'archéologie, si c'est bien ça.
Oui, c'est tout à fait ça.
Mais donc, nous allons revenir à notre sujet, à François-Eudes de Mézeray. Tout d'abord, sur quel type de documentation se repose-t-on pour étudier la personnalité d'un personnage tel que François-Eudes de Mézeray ?
Eh bien, on essaie justement de tirer parti de tout ce qui se présente. C'est-à-dire que vous avez évidemment des sources qui sont en rapport avec ses activités, donc avec ses productions. Il y a les volumes qu'il a publiés, qui eux subsistent et en nombreux exemplaires, donc on peut facilement s'y reporter. Et il y a des biographies anciennes qui avaient été faites au sujet de ce personnage, donc qui donnent des grandes lignes. En revanche, il importe d'en effectuer la critique, puisque on ne sait pas quel était l'état d'esprit dans lequel ces biographies ont été rédigées. Donc, elles pouvaient être faites pour défendre le personnage ou au contraire, pour le critiquer et le défavoriser.
Oui, parce que nous allons le voir, c'est un personnage qui n'a pas fait l'unanimité.
Exact, oui. Enfin, qui ne devait pas non plus avoir un tempérament très facile. Et donc, ça s'explique, quoi.
Donc, dans votre ouvrage, vous vous intéressez d'abord au personnage avant de vous concentrer sur son œuvre et sa place dans l'histoire française. Nous allons faire de même dans l'émission. Alors commençons par l'homme. Il naît donc en 1610 en Normandie. De quel milieu familial est-il issu ?
Oh, c'est un milieu assez modeste puisque son père était chirurgien et faisait surtout des accouchements. Mais en fait, c'était un peu un hasard parce qu'il avait prévu dans son jeune âge de devenir prêtre. Et puis, en fait, il y a eu une épidémie de peste. La famille a été décimée, les terres n'avaient plus personne pour les cultiver. Donc, il est rentré au pays à Ry, qui est une toute petite commune de l'Orne, à la limite du Calvados. Et il s'est mis à être à la fois cultivateur et à exploiter la ferme familiale, en même temps qu'il exerçait les fonctions de chirurgien. Et puis, il a eu de la chance, parce qu'il paraît qu'il a connu Henri IV à l'occasion d'un passage en Normandie, qu'il a eu l'occasion de participer à un repas de réveillon de Noël avec le roi. Est-ce que c'est ça qui explique un bruit qui a couru plus tard, à savoir que Henri IV lui avait accordé des droits sur des péages dans plusieurs villes, ce qui lui aurait donné plus de revenus que les revenus qu'il tirait de sa profession. Alors, ça expliquerait qu'il n'ait pas eu trop de difficultés pour faire des études à ses enfants, et en particulier à ses enfants mâles, puisqu'il a eu 3 fils. En même temps que toute une série de filles. Et on sait que pour les 3 fils, ils ont tous les 3 fait des études. L'aîné a fait des études dans les séminaires et il est devenu Saint-Jean-Eudes, fondateur de la congrégation des Eudistes. Le second, c'est François-Eudes de Mézeray, qui est donc devenu historiographe et dont on verra la carrière. Et le troisième a été chirurgien à son tour à Argentan. Et a exercé les fonctions de chirurgien, certes, mais aussi il a été échevin de sa ville, donc il devait être bien vu dans le secteur où il vivait. Quoi.
Donc François-Eudes de Mézeray suit d'abord des études à Caen.
Oui.
Puis, très vite, il décide de se rendre à Paris.
C'est-à-dire qu'il semble avoir hésité, parce que, en fait, j'ai essayé de rassembler toutes les indications qu'on pouvait trouver dans les biographies, dans les dictionnaires et dans les sources, mais qui de prime abord, n'était pas tellement abondante. Enfin, il y a deux catégories de fourches. Il y a d'une part les archives qui se trouvaient chez Mézeray, qui, à la mort de Mézeray, ont été préemptées par le pouvoir royal, qui a dit « Non, non, ça, ça vient à la bibliothèque royale, de peur que quelqu'un en fasse un mauvais usage, donc pour être bien sûr que ça ne soit pas réutilisé. » Et donc là, ça donne 29 volumes qui ont été reliés sous le Second Empire à la Bibliothèque nationale et déposés au département des manuscrits. Et donc c'est là qu'on peut les consulter. Mais malheureusement, on est un petit peu déçu quand on regarde le détail de ces registres parce que, en fait, il y a des documents qui sont juxtaposés, qui parfois sont un quart de feuille, parfois bien plus important, et qui manifestement ont subi quelques avatars entre le moment où ils ont été prélevés chez Mézeray et le moment où ça a été reclassé à la Bibliothèque nationale. Et donc, des documents qui étaient manifestement ensemble ont été séparés et mis éventuellement dans des registres séparés. Et de toute façon, il n'y a aucune explication. C'est-à-dire que vous tombez sur des textes, vous supposez qu'ils doivent être de François de Mézeray, mais vous vous dites que de temps en temps, peut-être que vous mettez le doigt dans l'œil, parce qu'en fait, ça pouvait être des copies faites sur des écrits d'autres que lui. Et qu'est-ce qu'il voulait en faire? Vous n'en savez rien. Donc, vous pouvez étudier le texte. Ce qui rend la lecture difficile, c'est le fait qu'il avait une écriture cursive qu'il utilisait pour lui-même quand il n'y avait pas de circonstances particulières, qui était très longiligne et très difficile à lire. Donc, on a publié certains travaux de Mézeray, justement, en rapport avec la préparation du dictionnaire de l'Académie française. Et la personne qui a fait cette transcription a bien travaillé parce que c'est pas facile de voir tous les détails. Et l'ennui dans les textes qui figurent dans les registres du cabinet des manuscrits, c'est qu'on ne sait jamais si c'est le texte complet ou pas. Parfois, ça s'arrête en bas de page et vous vous dites, il y avait peut-être une suite, il n'y avait peut-être pas. Mais vous ne pouvez pas le dire parce que rien ne vous permet de juger suffisamment précisément pour le savoir.
Donc, d'où quelques difficultés finalement et quelques mystères qui subsistent dans sa biographie.
Tout à fait, puisque en fait, lui n'a écrit aucun texte biographique le concernant. Les biographies qui ont été faites à son sujet ont été faites au XVIIIe siècle après sa mort. Et on a l'impression que dans un cas, celle de Delaroque était la plus détaillée, mais qui fait 120 toutes petites pages, parce que c'est un petit format dans l'édition originale. Et manifestement, l'auteur Delaroque ne s'est pas cassé beaucoup la tête pour obtenir des renseignements. Il s'est contenté d'interroger les personnes de son entourage qui avaient connu Mézeray et de recueillir des anecdotes. Il a mis tout ça dans l'ordre chronologique, ce qui était le plus facile, évidemment. Il en a tiré une biographie et avec des interprétations souvent défavorables à Mézeray, et dont on peut supposer la cause, mais sans en être absolument certain.
Donc, François de Mézeray, en tout cas, vient à Paris pour tenter de la fortune.
Oui.
Comment se retrouve-t-il historien?
Ah ben justement, alors ça, c'est un peu par hasard. Enfin, par hasard, façon de parler. En ce sens que, quand il vient à Paris, il y vient, après avoir pensé sans doute à se faire prêtre et à avoir une carrière religieuse, parce que le seigneur de Rye, donc de sa paroisse, était un membre de la famille Vauquelin. Et alors, il y avait eu Vauquelin de la Fresnaye, qui avait été poète à la fin du XVIe siècle, qui avait atteint une certaine réputation. Et le poète du moment dans la famille Vauquelin, c'était Vauquelin des Yvetot, qui était un type très original et assez farfelu, semble-t-il, qui vivait à Paris. Et donc, on a l'impression que François s'est fait recommander auprès de ce personnage par son seigneur qu'il connaissait bien, et dont il a surtout dû bien connaître l'épouse qui s'était occupée de son frère aîné précédemment. Et c'est ainsi qu'il a été accueilli par Vauquelin des Yvetot, qui semble l'avoir logé chez lui pendant quelque temps, et l'avoir encouragé. Et alors, comme Vauquelin des Yvetot était poète, il est évident que le jeune Mézeray s'est dit « je vais faire aussi des poésies ». Et on raconte qu'un soir, il avait entendu raconter une anecdote. Il a trouvé que ce serait une bonne idée pour faire une pièce de théâtre. Et donc, dans la nuit, il avait déjà écrit deux actes de cette pièce de théâtre. Alors, il est revenu le lendemain matin tout fier voir Vauquelin des Yvetot pour lui montrer son œuvre. Les Yvetot lui a dit « Oh non, ça c'est pas bon, et vous allez trop vite. Vous avez trop de facilité et du coup, vous ne travaillez pas assez vos poèmes. Vous n'arriverez jamais à faire de bons poèmes dans ces conditions-là. » Et alors, il semble que ce soit Vauquelin des Yvetot qui l'ait découragé de tenter une carrière de poète de cour et qu'il l'ait encouragé à prendre d'autres voies. Et donc, il lui a fait obtenir un poste de commissaire des guerres, ce qui était certainement plus sage et surtout plus sûr que la carrière de poète.
Est-ce en tant que commissaire des guerres qu'il se fait remarquer de Richelieu?
Non, pas du tout. Enfin, semble-t-il, si vous voulez, c'est tout la même chose. Pour cette époque-là, on n'a pas des indications tous les jours. Aujourd'hui, il y a les journaux, il y a ceci, il y a cela, il y a toutes sortes d'éléments qui vous permettent de reconstituer habitué jour par jour à ce qui se passe. Quand vous avez une indication sur 10 ans, c'est déjà pas mal. Sauf pour les personnages célèbres, si vous voulez. Pour les autres, on n'a pas beaucoup. Alors, on est obligé de faire feu de tout bois. Et il semble que le commissaire des guerres, il en a été dégoûté un peu, peut-être, par le spectacle de la guerre, de ce que ça pouvait être au XVIIe siècle. Et donc, il ait préféré abandonner cela. Et il a dû rentrer à Paris. Et là, il s'est cloîtré dans un collège universitaire, où il y avait une bonne bibliothèque, pour pouvoir travailler sur l'histoire de France. Alors, qu'est-ce qui l'a déterminé au juste à travailler sur l'histoire de France? On n'est sûr de rien. Mais des bruits veulent qu'un auteur plus âgé que lui ait eu à préparer une histoire de France et lui ait demandé de l'aider dans cette préparation d'ouvrage. Et donc, ça serait ça qui serait l'élément déterminant. Et comme le personnage en question était âgé et malade, on a l'impression qu'il y a eu un glissement au fil des années, que celui qui était le petit aide recruté pour faire des dépouillements pour les rois mérovingiens et autres choses sur lesquelles l'historien en cause ne voulait pas travailler, s'est retrouvé à la tête du travail et a repris la suite, en quelque sorte, de ce qui avait dû être commencé par un autre, mais sans qu'on en ait véritablement la preuve, puisque l'auteur en question n'a rien publié de strictement historique, et qu'il a fait toutes sortes de choses, en particulier des traductions, et il vivait en fait de traductions.
D'accord. Donc en 1643, finalement, François de Mézeray publie son premier titre à succès, j'ai envie de dire,
oui.
Son histoire le premier tome de l'histoire de France.
Voilà, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas lancé d'abord dans des petits travaux d'histoire de France, et puis ensuite dans une grande histoire de France, il a décidé qu'il ferait une histoire complète depuis Pharamond, qui était censé être le premier roi de France, jusqu'à Louis XIV, quoi. Enfin jusqu'à Louis XIII en tout cas. Et c'est ainsi qu'est paru le premier tome d'un travail qui était prévu pour aller jusqu'à l'époque contemporaine. Et ce premier tome était quelque chose d'envergure, parce que ça faisait quand même 1000 pages d'un format in-folio, donc c'est pas rien. Et la suite est sortie effectivement peu d'années après, à des échéances assez régulières. Le tome 2 était en 1646, le tome 3 en 1651, donc vous voyez, il y a un écart qui n'est pas considérable. Et ça fait quand même 3500 pages, et l'abbé d'Olivet, qui en a parlé ensuite, dans son histoire de l'Académie française justement, disait qu'il avait une très grande facilité de rédaction. Et on le croit volontiers, parce qu'effectivement, il devait aller vite pour arriver à sortir comme ça autant de pages aussi rapidement.
Donc ce premier tome de l'histoire de France va lui assurer un certain succès et va le faire connaître, entre autres, du cardinal de Richelieu.
Oui, c'est possible, mais ce n'est pas forcément ça. Il semble que ce soit avant la parution qu'il ait connu le cardinal de Richelieu. Et il y a deux versions. On dit que Mézeray serait tombé malade parce qu'il travaillait trop là, dans son collège Sainte-Barbe. Et donc, des amis communs le connaissant et connaissant Richelieu auraient recommandé le jeune homme à Richelieu et lui auraient obtenu une bourse de 500 livres que, généreusement, le cardinal lui aurait fait adresser avec une lettre d'accompagnement l'encourageant à venir le voir. Ça, c'est la première version, la version classique. Il y a une autre version qui est donnée aussi au XVIIIe siècle, qui dit que Mézeray aurait été présent à une soutenance de thèse de philosophie à laquelle assistait aussi le cardinal de Richelieu, qu'il est intervenu avec brio et que ses interventions ont été remarquées donc, par le cardinal, qu'il a fait venir à la fin de la séance et qu'il lui a dit « Passez me voir, on parlera de votre avenir ». Et alors donc, effectivement, il vient le voir et il semble que le cardinal lui ait dit « Vous êtes commissaire des guerres, ça c'est pas un travail pour vous, il faut que vous fassiez des études puisque vous avez déjà fait beaucoup d'études, vous pouvez vous continuer dans cette branche de l'érudition qui vous convient mieux ». Et peut-être est-ce que c'est Richelieu, en fait, qui l'a axé sur l'histoire de France, parce qu'il ne faut pas oublier que la France n'était pas encore vraiment formée à ce moment-là, et qu'on en était au premier stade. Et que pour Richelieu, il était important, d'une part, que la langue française se stabilise et s'uniformise, d'où l'Académie française avec le dictionnaire de l'Académie, et d'autre part, qu'il y a un esprit national qui se constitue. Et là, il avait besoin de bouquins comme une histoire de France, d'autant plus qu'il était évidemment un cardinal catholique, donc il était toujours énervé par le fait que des protestants faisaient sans cesse de nouveaux essais sur des histoires de France, et il voulait pouvoir contrecœurer ces histoires de France considérées comme hérétiques, ou en tout cas ne correspondant pas à l'état d'esprit de Richelieu.
Donc, en fait, Richelieu nomme François-Eudes de Mézeray historiographe.
C'est plus compliqué que ça, parce que, en fait, si vous voulez, lui a sans doute confié des tâches historiques. Mais le titre d'historiographe de France était un titre particulier, une fonction qui est d'ailleurs mal définie et pas très bien connue. Et on sait qu'il a reçu une lettre patente du roi le nommant historiographe de France, on le sait simplement par l'inventaire après décès qui a été fait chez lui. Parce que là, les lettres patentes en question sont mentionnées. Elles sont mentionnées signées Louis et Philippot. Donc c'est signature royale et la signature du secrétaire d'État qui devait contresigner pour assurer l'efficacité du document. Et alors donc, il y a bien une lettre, mais elle date de 1657. Donc, il semble qu'il ait fait les fonctions d'historiographe de France pendant un temps et publié ses livres, mais sur la couverture du livre, il n'y a pas le titre d'historiographe de France. Alors que sur l'abrégé chronologique de l'histoire de France qu'il a publié en 1668, là, il y a historiographe de France. Donc, si vous voulez, certainement qu'il y a eu des préparatoires, en quelque sorte, avant la nomination officielle d'historiographe de France.
Alors, avant de pénétrer un peu plus dans l'œuvre de François de Mézeray, pouvez-vous nous décrire un peu le personnage ?
Eh bien, si vous voulez, on a la chance d'avoir une gravure qui a été faite d'après un dessin pris sur le vif par un peintre. Donc, qui doit correspondre à son allure réelle. Et c'est à partir de ce portrait qui a été gravé par Picard. Alors là, du coup, on ne sait pas exactement quand, puisque en fait, ça peut être soit au moment où le dessin avait été pris, soit après la mort de Mézeray. Mais enfin, de toute façon, ça nous donne certainement le visage de Mézeray. Il est reproduit dans le l'ouvrage. Ben, sur la couverture, c'est une gravure du XVIIIe siècle, faite d'après celle d'Étienne Picard. Mais enfin, de toute façon, ça doit être grosso modo son allure.
Et au niveau du caractère ?
Alors, au niveau du caractère, on dit qu'il aimait bien plaisanter, on dit qu'on appréciait sa conversation dans les salons, on dit qu'il avait beaucoup d'intuition.
Et quelques défauts aussi.
Et quelques défauts, oui, c'est ça.
Dont l'avarice.
Oui, c'est-à-dire que l'avarice n'a pas été connue de son vivant, pour en parler. On l'accusait d'avoir souvent des vêtements pas très nets et pas très élégants, de ne pas briller comme ça par sa tenue. Mais en revanche, l'avarice n'était pas connue. Et il se trouve que lui avait pensé faire un testament, et il avait dit dans son testament qu'il voulait surtout pas qu'il y ait d'inventaire de faits chez lui, que les hommes de loi ne s'en mêlent pas. Il savait très bien que on n'avait pas besoin d'eux pour régler les choses, et donc tout le monde pensait qu'il n'y avait pas eu d'inventaire de faits. Et je suis allé aux archives nationales rechercher justement dans le minutier central le testament de Mézeray, puisque là du coup j'avais les références, une référence qui était à moitié fausse d'ailleurs. Le nom de l'un des notaires c'est vrai et le nom de l'autre avait été déformé. Mais il ne reste pas moins que le testament lui était bien là à la date indiquée, donc on pouvait le retrouver dans les liasses. Et il y avait aussi mentionné sur l'inventaire des actes passés dans la même étude la même année, des actes de reconnaissance faits par des légataires particuliers désignés par Mézeray. Alors évidemment, je suis allé voir aussi ces actes de légataires. Et puis, je me suis aperçu que sur certains d'entre eux, il était question d'un inventaire et du fait que, en particulier, une nièce de Mézeray qui avait reçu une part de sa fortune disait qu'elle avait assisté à cet inventaire. Alors, j'ai recherché, j'ai feuilleté la liasse et j'ai retrouvé l'inventaire qui était en effet une grosse liasse comportant plus de 100 pages avec la description du mobilier il avait dans ses différents domiciles, l'inventaire des bouquins de sa bibliothèque, enfin, tels qu'ils étaient faits par les notaires à cette époque-là, c'est-à-dire qu'on faisait essentiellement des lots, et il était rare qu'on détaille chacun des volumes. La plus forte raison, ce n'était pas des fiches bibliographiques. C'était fait simplement pour évaluer la valeur.
Mais donc, on parlait de l'avarice qu'on a découvert donc, à ce
oui,
moment-là.
Oui, parce que justement, dans les papiers, il y avait aussi l'inventaire comportait l'inventaire des papiers figurant chez Mézeray. Et là, il y avait énormément de reconnaissances de dettes, d'actes notariés, parce que faut pas oublier que les banques n'existaient guère au XVIIe siècle. Donc, quand les gens avaient de l'argent, ils étaient obligés de l'avoir chez eux. S'ils le gardaient en louis d'or dans leur cassette, ils avaient des chances de se faire voler et surtout, ils ne pouvaient pas en tirer profit. Donc, il fallait faire travailler cet argent et c'était pour faire travailler cet argent qu'on trouvait des gens ayant besoin d'argent, on leur prêtait de l'argent et on s'arrangeait pour avoir des garanties, c'est-à-dire qu'on faisait toujours un papier et de préférence, on allait chez le notaire pour que ça ait un caractère officiel et que si jamais le débiteur ne payait pas, on puisse aller devant le tribunal et obtenir une condamnation. Et manifestement, Mézeray était devenu un as de ce genre de truc, parce qu'il y a une cinquantaine d'actes de cet ordre qui sont cités, et compte tenu du nombre d'années, ça refait au moins deux ou trois ou quatre prêts par an. Donc, si vous voulez, c'était quelque chose de régulier. Quoi.
Alors maintenant qu'on a présenté un peu le personnage, je voudrais qu'on parle de la période qui suit, c'est-à-dire ses années à l'Académie. Mais avant, je vous propose de marquer une courte pause.
De quel déficit fondamental souffre l'Europe ? Démocratique, culturel, institutionnel, économique ? Le point sur l'Europe en 2009 avec Thierry de Montbrial de l'Académie des sciences morales et politiques, au lendemain de la tenue du G20 dans un contexte de récession mondiale. L'Europe de 2009, forces et faiblesses en temps de crise, une émission éclairage à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, nous sommes toujours en compagnie de Guy Véron pour évoquer François-Eudes de Mézeray, que nous avons quitté donc historiographe de France depuis 1643 et qui en 1648 entre à l'Académie française. Alors tout d'abord, Monsieur Véron, pouvez-vous nous indiquer les circonstances de son élection à l'Académie française ?
Eh bien malheureusement, je ne le peux pas, et si je ne peux pas, c'est que personne ne peut, étant donné que les archives anciennes de l'Académie française ont disparu. On a publié au début du siècle dernier ce qui reste, c'est-à-dire tous les registres effectivement disponibles, mais ça commence nettement après le début de l'entrée de Mézeray à l'Académie. Donc on sait bien qu'il a dû faire un discours, mais ce discours n'est pas connu, et les circonstances de son élection ne sont pas connues non plus. Il semble qu'il n'ait pas posé sa candidature à l'Académie, que ce soit à l'Académie qui, en quelque sorte, l'ait coopté, et qu'on ait dit qu'il allait entrer à l'Académie sans qu'il ait eu à faire de visite ni quoi que ce soit.
Le but de son entrée à l'Académie est relativement clair. Dès le départ, on le fait rentrer pour accélérer la rédaction du dictionnaire, n'est-ce pas ?
C'est moins clair que ça, parce que, si vous voulez, il y a quand même un décalage dans le temps. C'est-à-dire qu'il y avait Vaugelas qui avait été chargé par Richelieu et par l'Académie de s'occuper de la rédaction du dictionnaire. Et pendant 15 ans, Vaugelas s'en est occupé. L'ennui, c'est que à sa mort, en 1650, il n'y avait que 7-8 lettres à avoir été travaillées. Encore, elle n'était pas disponible véritablement. D'autant plus que Vaugelas était un homme qui dépensait plus d'argent qu'il n'en gagnait. Et le résultat, c'est que quand il est mort, ses créanciers ont aussitôt demandé la saisie des papiers qu'il y avait chez lui. Enfin, tout ce qu'il y avait, mais en particulier de ses papiers. Et l'Académie n'a pu récupérer que partiellement les notes de Vaugelas en rapport avec la rédaction du dictionnaire de l'Académie. Ce qui fait qu'on a une information qui est tronquée. Et l'ennui, c'est que par la suite, bon, il y a eu les comptes rendus de séance ont été tenus régulièrement et donc sont encore disponibles. Donc, une partie a été rédigée d'ailleurs par Mézeray à partir du moment où il a été secrétaire perpétuel de l'Académie. Mais il ne reste pas moins que pour les débuts, on n'a pas grand-chose, quoi. Donc, on ne sait pas exactement comment ça s'est produit. Et en tout cas, officiellement, Mézeray n'a été chargé de la responsabilité du dictionnaire qu'après la mort de Vaugelas, qu'après 1650.
Donc François-Eudes de Mézeray est donc chargé de la rédaction du dictionnaire, tâche dont il s'acquittera jusqu'à la fin de sa vie.
Oui, parce que en fait, c'est resté une tâche inachevée pendant les 40 ans durant lesquels Mézeray a été à l'Académie française. Quand il est mort en 1683, on en était arrivé à la lettre N et il y avait déjà une version imprimée, donc qui était disponible. Mais Mézeray était déjà malade quand il est revenu de chez l'imprimeur Monsieur Le Petit. Et il a fait un rapport là-dessus pour ses collègues, disant que c'était vraiment pas fameux et qu'il valait mieux tout revoir et tout reprendre, et ne pas sortir dans une édition publique cette version du dictionnaire de l'Académie. Alors évidemment, on se retrouvait au point de départ. Et l'ennui, c'est que ça a autant piétiné après la mort de Mézeray qu'avant, de telle sorte que c'est seulement en 1694 qu'il y a eu une version imprimée totale du dictionnaire qui est sortie, et que cette version n'était malheureusement pas très bonne, ce qui a fait que le roi était très déçu du résultat, si bien que on dit que dans les comptes rendus de l'Académie, il est dit qu'il a été offert au roi, mais sans qu'il y ait de commentaires, ce qui est très mauvais signe.
Quel climat régnait à l'Académie à ce moment-là ? Les séances semblaient compliquées.
C'est-à-dire que c'était très formel, semble-t-il. Je vous en parle comme si j'y étais. Vous me pardonnerez parce que je peux vous dire des grosses bêtises sans m'en rendre compte. Mais il y a quand même les comptes rendus, il y a des récits, il y a en particulier une séance à laquelle a assisté la reine Christine de Suède, pour laquelle il y a un compte rendu détaillé qui avait été fait par l'un des membres de l'Académie et un de ses collègues. Donc on a des détails et on voit bien que tout le monde était autour d'une grande table rectangulaire, que le président était à un bout de la table et que les nouveaux entrés, par exemple à l'Académie lors de leur élection, étaient sur le petit côté en face et que tous les membres de l'Académie étaient autour de la table et qu'il y avait une assistance qui était au-delà de la table, entre les murs et la table. Donc ça devait être un effet assez solennel.
Le travail de Mézeray à l'Académie ne concerne pas uniquement le dictionnaire. Vous dites qu'il s'occupait aussi de gérer les finances de l'Académie.
Ben ça, c'est à partir du moment où il a été secrétaire perpétuel de l'Académie. Le terme de secrétaire, ça veut dire qu'il expédiait des affaires courantes. Et expédier les affaires courantes, ça veut dire répondre aux lettres qu'on reçoit, envoyer les mots de condoléances ou de félicitations quand il y a des membres ou des hautes personnalités dont on veut saluer les succès ou au contraire plaindre les peines. Donc, il faut s'occuper de tout ça. Et c'est le rôle du secrétaire perpétuel. Et en plus, Mézeray a été le second secrétaire perpétuel. Et quand il est rentré à l'académie, le premier secrétaire qui l'avait donc précédé, qui était en titre, qui était Conrard, lui était tout le temps malade, au moins une fois sur deux. Et donc, l'habitude s'est prise que ce soit Mézeray qui le remplace. Alors, en fait, Mézeray a été secrétaire perpétuel depuis son entrée à l'académie jusqu'à sa mort.
Il le devient en titre, si j'ose dire, à un moment pourtant où il est déjà dans le collimateur de Colbert.
Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, le fait qu'il ait remplacé Conrad chaque fois que Conrad n'était pas là, c'est-à-dire très souvent, et qu'en 1675, quand Conrad est mort, il s'est présenté évidemment pour le remplacer. Alors, ses collègues de l'académie savaient bien qu'il était mal vu par Colbert, mais enfin, il n'en reste pas moins que quelqu'un qui avait fait fonction pendant plus de 20 ans, 25 ans, lui dire « Ah non, vous n'êtes pas capable d'être secrétaire perpétuel, franchement, non, ça, vous pouvez pas remplir cette fonction-là. » Donc, c'était difficile. Alors, ils l'ont élu à l'unanimité, secrétaire perpétuel à la succession de Conrad, mais avec certains étonnements qui montrent bien quand même les regrets et les craintes et toutes les scrupules qu'avaient les dignes académiciens de déplaire à Monsieur Colbert, de déplaire à Louis XIV et donc de se faire mal voir de leurs autorités de tutelle.
Parlons en effet maintenant des rapports délicats entre Colbert et Mézeray. En fait, en 1668, Mézeray publie un abrégé chronologique de l'histoire de France que Colbert voit d'un mauvais œil.
Bien, au début, il ne le voit pas, parce que Colbert était quand même quelqu'un qui travaillait énormément et qui lisait son bréviaire quand il rentrait chez lui le soir. Alors évidemment, ça ne laissait pas tellement de loisirs pour avoir des lectures profanes par ailleurs. Et c'est simplement son fils, qui était au collège de Clermont à l'époque, enfin son fils aîné, qui l'interrogeait sur ses études très régulièrement, et qui un beau jour lui dit qu'il a lu un livre très intéressant, qui était une histoire de France, de Mézeray. Et alors il dit, qu'est-ce que vous avez vu dans cet ouvrage? Et il dit, ben, j'ai vu l'origine des impôts, des tailles, de toutes les perceptions faites par le pouvoir royal, les transformations qu'il y a eu, etc. Et alors donc, c'est là que Colbert s'est dit, tiens, il faudrait peut-être que je jette un œil moi-même sur ces chapitres-là. Et il s'est fait lire le passage en cause, où il a vu qu'en effet, Mézeray se permettait de critiquer le pouvoir royal en trouvant que c'était abusif, que c'était pas bien, et qu'on ne pouvait critiquer l'attitude de la royauté dans ce domaine. Alors quand il a vu ça, il a dit, ben ça c'est bien un comble. On donne une pension de 4000 livres par an à Mézeray, et il trouve le moyen de critiquer le pouvoir royal. C'est tout à fait inadmissible. Et du coup, il lui a supprimé sa pension. Et en lui faisant passer un petit message disant qu'il était là pour travailler pour le roi et non pas pour le critiquer.
Vous dites que cette disgrâce constitue un véritable tournant dans la vie de Mézeray, pourquoi ?
Bien parce que tout s'est trouvé transformé, si vous voulez, puisque en fait, jusqu'alors, tout avait marché au mieux. Il était bien avec le pouvoir, il recevait donc des pensions et des pensions importantes de la part de ce pouvoir, ce qu'il mettait à l'abri de tout souci d'argent, et en plus, il était très considéré. Donc il avait tout pour faire et il était bien vu du public puisqu'il se permettait de faire des critiques quand il les jugeait utiles. Donc c'était la situation la meilleure. Faut pas oublier que quand la grande histoire de France est sortie, entre 1643 et 1651, c'était une époque où Richelieu était mort, Louis XIII venait de mourir, il y avait la régente et Mazarin, qui était plus coulant, moins superficiellement, et le petit Louis XIV en était encore presque au berceau. Quoi. Et le petit Louis XIV en question, on lui a lu des passages de l'histoire de France de Mézeray quand il était jeune, et il paraît qu'il prenait goût, et que et quand on lui disait « si vous continuez comme ça, vous serez le digne successeur de Louis le Fainéant », alors là, du coup, il se mettait en colère.
Donc cette disgrâce de Colbert va vraiment peser sur le caractère même de Mézeray.
Ben, c'est-à-dire que, si vous voulez, on a l'impression qu'avant, Mézeray était quand même très bien vu par tout le monde. Il a été élu par l'Académie française alors qu'il avait proposé sa candidature et tout le monde le considérait comme une autorité très importante. Quoi. Et on a le sentiment qu'au fil des années, d'une part, les gens ont eu beaucoup plus de mal à supporter sa direction un peu trop autoritaire des activités de l'Académie et puis ils se sentaient beaucoup moins aimés que dans son jeune temps. Quoi. Et on a l'impression en effet qu'il y a eu une rupture dans sa vie et que à partir d'une date qu'on ne peut pas fixer à l'année près, mais enfin, que l'on voit assez bien, il a choisi ses amis en dehors du milieu académique, en dehors du milieu savant, et qu'il ne rencontrait plus les grands hommes de l'époque que dans le cadre de l'académie, mais sans les voir en dehors.
Il meurt en 1683. On ne sait d'ailleurs pas vraiment de quoi.
Non, parce qu'on sait qu'il a eu une longue maladie qui a duré 2 ans et qu'il n'arrivait plus à monter en carrosse pour se déplacer. Donc, qu'est-ce qu'il a eu au juste, on n'en sait rien.
Nous allons évoquer maintenant, à proprement parler, l'œuvre de François Mézeray et voir ce qu'il a apporté à l'histoire. Mais avant, je vous propose de marquer une courte pause. Nous sommes toujours en compagnie de Guy Véron, auteur d'une biographie de François Eudes de Mézeray, publiée aux éditions H&D. Intéressons-nous donc maintenant de plus près à l'œuvre de François de Mézeray. Et tout d'abord, Monsieur Véron, pouvez-vous nous indiquer qu'est-ce que l'histoire à la fin du XVIe siècle ?
À la fin du XVIe siècle, l'histoire est déjà assez développée, parce qu'il faut voir qu'il y a eu une grande coupure qui s'est située au passage entre le Moyen-Âge et la Renaissance, et qu'on est sorti des chroniques médiévales pour passer à des ouvrages historiques beaucoup plus proches des ouvrages actuels dans le domaine. Mais il ne reste pas moins qu'on partait de pas grand-chose. Et donc, il fallait constituer ces histoires de France. Alors, les rois de France ont commencé par faire venir des Italiens pour travailler sur l'histoire de France, et puis ensuite, il y a eu des auteurs qui ont eux-mêmes choisi des sujets plus particuliers et qui ont travaillé sur des tas de domaines. Et l'histoire de France était évidemment l'un des sujets majeurs, avec des retombées politiques, puisque les gens de la Ligue, les protestants, chacun avait ses conceptions historiques et essayait de trouver dans l'histoire une justification à des prises de pouvoir, soit par les états généraux, soit par les parlements, soit par d'autres instances, et en tout cas pour lutter contre l'absolutisme royal.
Et quel genre d'histoire a voulu écrire Mézeray ? Une histoire scientifique ? Une histoire grand public ?
C'est-à-dire qu'en fait, Mézeray s'est trouvé dans une époque charnière. Il faut bien voir que, pour toutes les sources médiévales, elles étaient restées manuscrites jusqu'au XVIe siècle. Et c'est simplement au XVIe siècle qu'avec le développement de l'imprimerie, on a commencé à donner plus de diffusion à certains textes, comme Grégoire de Tours, comme toute une série de chroniques médiévales qui ont été éditées et qui, du même coup, sont devenues accessibles pour les chercheurs. Alors qu'avant, il fallait se déplacer pour aller les chercher. Bon. Et il n'en reste pas moins qu'il en restait encore beaucoup, qui étaient simplement manuscrites. Mais au début du XVIIe siècle, certains, tels André Duchesne, par exemple, ont commencé à en faire la publication et ont fait un travail absolument prodigieux et colossal. Duchesne a publié peut-être des centaines d'ouvrages historique, soit de synthèse, soit des publications de sources, et en particulier des publications de sources, et en fait tous les autres en ont profité. Donc Mézeray a été lecteur de ces sources éditées par Duchesne et par d'autres qui ont commencé à publier les textes. Et donc ça lui a permis de faire une histoire qui était quand même plus au point, plus sentie, meilleure sur le plan psychologique, sur le plan de l'analyse des faits et de leurs origines, que ses prédécesseurs.
D'où des ouvrages relativement grand public, si on peut utiliser cette expression.
Que ça, c'est une volonté de la part de Mézeray. C'est-à-dire que Mézeray ne tenait pas du tout à travailler pour ses collègues érudits. Il voulait que le plus possible de gens lisent ses livres. Et c'est ce qui fait qu'il a essayé d'avoir des textes qui soient facile à lire, il variait le style pour essayer de s'adapter et relancer l'intérêt du lecteur. Pour 3500 pages, vous comprenez, il faut quand même se donner du mal. Et par ailleurs, il s'est arrangé pour avoir une illustration assez abondante. Alors, il était classique au XVIe siècle de publier des recueils dans lesquels on trouvait les portraits des rois de France. Ça, il y en avait toute une série qui a été publiée au XVIe siècle. Et au XVIIe, il y avait un peintre et graveur flamand qui s'appelait Deby et qui a travaillé là-dessus et qui a publié à 2 reprises un recueil des rois de France. Et ces gravures de Deby qui ont été reprises par Mézeray dans son Histoire de France. Alors, un accord a dû être trouvé avec Deby, suivant quelle modalité, ça on n'en sait rien, d'autant plus qu'il ne cite même pas Deby, il cite simplement celui qui a fait les petits quatrains rimés qui se trouvaient au-dessous des portraits. Et qui avait lui-même publié des livres en collaboration avec Deby. Donc, ça doit être lui qui l'avait mis en rapport avec Deby. Et alors, Mézeray a trouvé que c'était pas suffisant d'avoir simplement le portrait des rois de France. Il a voulu qu'il y ait le portrait des reines. Et ça tombait bien, parce que c'était justement en temps de la Régence que son volume 1 est sorti. Donc, il pouvait dire, moi, je suis un féministe, vous voyez, au lieu de ne parler que des rois, je parle aussi des reines, qui ont joué un grand rôle dans l'histoire de France. Et il a demandé aussi à Deby de graver le portrait des dauphins. C'est-à-dire que ça donne une abondante série de portraits qui ont une base historique qu'il faudrait vérifier pour être bien sûr qu'elle soit toujours bien judicieuse, mais enfin qui a le mérite d'exister.
Connaît-on les méthodes de travail de Mézeray ?
On ne les connaît pas à proprement parler, puisqu'on n'était pas derrière lui, bien évidemment. Mais en revanche, on peut les retrouver à travers ce qu'il en dit ou à travers ses manuscrits. Quoi. Et on voit qu'il travaillait avec d'autres. C'est toujours un travail de solitaire, en quelque sorte, de faire un grand travail comme ça, parce qu'il y a quand même une unité de rédaction qui est importante, quoi, qui est nécessaire. Alors que lui, il était servi par sa facilité d'écriture qui faisait qu'il pouvait se lancer là-dedans et continuer jusqu'à plus soif. Mais on a l'impression qu'il en discutait avec des personnes qu'il avait choisies pour leur qualité d'écoute et pour leur connaissance.
Et qu'il ne cite jamais dans ses ouvrages.
Mais qu'il ne cite pas. Mais là, je crois qu'il y a aussi le problème des différences de mentalité entre le XVIIe siècle et l'époque actuelle.
En quoi peut-on dire qu'il fut novateur pour l'histoire de France ?
Si vous voulez, il a eu, dans les premiers, quand même, une conception synthétique de l'histoire de France en essayant de la lier, d'en faire vraiment un tout. Et il était persuadé que la nation française était une réalité. Et ça, il a essayé de faire passer à ses lecteurs. Et donc, ce patriotisme de Mézeray, en quelque sorte, qui a peut-être fait son succès auprès des lecteurs qui étaient désireux de ce genre d'attitude et qui a fait que beaucoup de gens ont lu l'histoire de Mézeray.
Merci infiniment Guy Véran, nous arrivons au terme de notre émission. Je rappelle que vous publiez aux éditions HED François Eudes de Mézeray. Au revoir à tous et à toutes.